À la mémoire de Bernard de Montréal, voici, mesdames et messieurs, la deuxième partie de la conférence intitulée « Les lois de la mort ».
La nature astrale de l'homme vient de deux aspects. D'abord, la nature astrale, le plan astral, le monde de la forme astrale a toujours existé en énergie. Mais lorsque l'homme est descendu dans la matière, lorsqu'il y a eu union entre son esprit et l'âme pour l'incarnation, il s'est développé des expériences sur le plan humain qui sont devenues de la mémoire. Et ces mémoires ont rempli de plus en plus le monde astral, de sorte qu'aujourd'hui, le monde astral n'est plus pur. Il est rempli de mémoire, il est totalement pollué par l'expérience de l'humanité. Alors l'homme, lui, retourne dans ce monde, il retourne dans une dimension qui est totalement polluée, qui est en fait une dompe, et il a l'impression d'aller chercher dans cette dompe de la connaissance. Et effectivement, il va chercher de la connaissance, mais la connaissance n'a rien à faire avec le savoir. La connaissance, c'est une illusion. C'est pour ça que je dis, le vrai, le faux, le bien et le mal sont des dimensionnalités, sont une polarité de la connaissance. Lorsque l'homme rentre dans le monde mental, il est au-dessus du bien et du mal, du vrai ou du faux. Il est dans le savoir, c'est-à-dire qu'il peut comprendre parfaitement la fonction, les lois de cause et d'effet qui couvrent le bien, le mal, le faux, le vrai, et ainsi de suite.
Est-ce qu'il serait logique de croire que toute religion tue l'homme, le ramène continuellement dans le monde de l'astral?
C'est-à-dire que les religions ont une fonction. Les religions, les systèmes philosophiques, ésotériques, tout ce que l'homme a eu durant l'évolution a eu une fonction. L'homme devait être enseigné. Et la fonction des religions et la fonction de tous les systèmes symboliques automatiquement rapportent l'homme à l'astral, rapportent l'homme à la mort, et ainsi de suite. Mais c'est normal parce que l'homme doit ou devait développer pendant un certain nombre de millénaires, des facultés qui devenaient éventuellement suffisamment agencées pour qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, nous ayons un homme qui a un peu, au moins, un corps mental développé et un corps astral développé. Mais si l'homme, il y a 12, 15, 20, 30 000 ans, avait été donné de savoir, il n'aurait pas pu se servir de cette énergie parce qu'il n'avait pas les réservoirs, il n'avait pas les structures pour recevoir cette énergie. Alors, pour recevoir le savoir, il faut avoir un mental solide, il faut avoir une émotion solide, il faut avoir un vital solide. Alors, pendant l'évolution, ces corps se sont développés et les religions ont servi, tous les systèmes que nous connaissons, tout ce qui fait partie de la connaissance humaine, ont servi à développer ceci pour le bénéfice de l'homme. Mais lorsque l'homme arrive à la fin du V, lorsque l'homme arrive à la fin de l'évolution et entre dans l'évolution, ce qui a servi auparavant est détruit pour que se construisent d'autres conditions de son évolution. C'est un peu comme, c'est un peu comme le petit garçon qui va à l'école, et on lui parle à l'école d'Adam et Ève, de la pomme, et ainsi de suite, mais rendu à un certain âge, il réalise que c'est autre chose. Alors, c'est la même chose pour l'homme.
Comment se débarrasser individuellement ou collectivement du monde de l'astral? On peut quand même pas demander l'intercession de Dieu parce qu'il fait partie du monde de l'astral.
Non, le monde de l'astral, la destruction du monde de l'astral qui est inévitable sera faite par les forces de la lumière. Elle sera faite par les forces de l'intelligence et chaque homme qui éventuellement, à cause de son évolution, au niveau de son mental, qui est prêt à recevoir cette énergie, ses forces le savent, ils feront la communication, le contact avec lui, et le monde de l'astral commencera à se détruire en lui automatiquement. Il passera une sorte d'initiation pendant un certain temps, ses corps s'ajusteront, éventuellement, il commencera à comprendre, et avec le temps, il s'ajuste. Ce sont les forces de l'intelligence, de la lumière, les forces de l'évolution qui détruiront l'astral. Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut rien faire pour détruire l'astral.
En allouant un beau 100% aux forces de l'intelligence, lorsqu'elles utilisent un cerveau humain, ne risquent-elles pas d'être déjà tout à fait altérées? Il y a des cerveaux humains qui ne sont pas capables d'utiliser les forces de l'intelligence à 100% et qui risquent gros de créer des marasmes sur le plan social.
Oui. Au cours de l'évolution, les hommes qui vivront la mutation, parce que le contact avec ces forces est une mutation. Le contact avec l'astral ne crée pas de mutation, il crée une transformation spirituelle. Mais le contact avec ces forces crée une mutation parce que le contact est tellement puissant que l'homme perd l'identité de sa pensée subjective. Et automatiquement, il est obligé de reconnaître qu'il existe des plans d'intelligence qui sont liés avec lui, et que l'intelligence vient de ses plans, et qu'il a toujours été coupé de cette réalisation à cause de son inconscience et à cause de son lien avec l'astral. Et aussitôt qu'il commence à recevoir cette énergie et vivre de cette énergie, automatiquement, sa psychologie change, et s'il n'est pas suffisamment solide, fort, pour absorber cette énergie, éventuellement, il peut y avoir une fracture dans sa psychologie, une désintégration, et il peut y avoir même un mouvement vers la destruction, parce qu'il n'aura pas la capacité de soutenir le choc vibratoire de cette énergie. Mais, les forces, ces forces, ça c'est intéressant ça, ce ne sont pas les forces qui sont le problème de l'homme. Ce ne sont pas les forces de l'intelligence qui sont le problème de l'homme. Ce sont les forces astrales. Lorsque, prenons ceci, prenons ce vase comme étant un homme, et prenons les forces de l'intelligence qui viennent et les forces astrales qui sont déjà en lui. Lorsque les forces astrales, les forces de l'intelligence commencent à entrer dans l'homme, les forces astrales s'opposent. Parce que les forces astrales sont en fait les forces des ténèbres. Alors, ces forces s'opposent. Et ces forces, déjà, ont créé dans l'homme une psychologie subjective pendant des années de temps. Et automatiquement, elles empruntent son vocabulaire, elles empruntent ses pensées, elles connaissent très bien ses nodes émotives. Et automatiquement, si cette énergie commence à rentrer, elles vont s'opposer. Et en s'opposant, elles vont créer le déséquilibre dans l'homme. Mais si l'homme, il est jeune, admettons, je prends le cas de ma famille. Moi, j'ai une petite fille qui a aujourd'hui 9 ans. Et depuis qu'elle est au monde, je la suis. Et quand elle est arrivée à l'âge de 7 ans, je lui ai fait prendre conscience de ses forces en elle. Alors, automatiquement, à partir d'un très bas âge, les forces astrales n'ont pas eu le temps de la contaminer. De sorte que cette force entre en elle, et elle parle avec ses forces comme si c'était absolument normal et naturel. Et c'est tellement universel que moi-même, souvent, je lui demande conseil et on me répond à travers elle. Alors, je peux me fier complètement à ma petite fille parce que je sais qu'elle est en communication avec des forces qui sont lumineuses au lieu de forces qui sont astrales. Mais elle n'est pas contaminée. Tandis que nous, les hommes, lorsque nous avons 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, que nous appartenons à une vieille société, automatiquement, ces forces nous ont tellement pollués, nous avons tellement une psychologie qui est fondée sur la crainte, l'inquiétude, nous avons tellement aucune centricité dans l'ego, que aussitôt qu'il y a confrontation entre ces deux énergies, automatiquement, celles-ci vont combattre. Alors, c'est pour ça qu'à un certain moment, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais des séminaires. Parce que moi, étant dans cette énergie, c'est facile pour moi de savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne. Alors, automatiquement, ces énergies-là, ces forces, je peux les retarder parce qu'elles ne peuvent pas me mentir. Alors, éventuellement, je les brise, et lorsque je les brise, ça facilite la pénétration des forces créatives dans l'homme, et après un certain moment, lorsque l'homme s'est ajusté, il est en his own. Mais il y aura au cours des siècles des écoles, il y aura des centres, des écoles, il y aura des psychologies, il y aura des psychologues, il y aura des gens qui connaîtront cette loi, cette énergie, qui sauront travailler avec ces forces et qui pourront enseigner aux gens qui sont affectés encore par l'astral. Et petit à petit, ces gens-là seront dépollués et éventuellement, ils seront dans leur énergie et éventuellement, il y aura fusion entre leur ego et l'énergie créative universelle et l'homme commencera son évolution vers la conscience supramentale.
Se pourrait-il que de mettre de côté des livres comme la Bible et même d'arrêter d'étudier l'histoire ancienne de l'humanité avec l'orgueil politique de chacun des pays et tout le reste, ce serait déjà un bon commencement de dépollution?
Non. Non, parce que tout ce qui existe sur le plan matériel est bon. La Bible est très bonne, les livres qui existent sont très bons, et ainsi de suite. Il y a des hommes, prenons la Bible. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un mouvement évangéliste. Bon. Alors, le mouvement évangéliste, quand on est dans l'intelligence, quand on n'est pas dans la polarité des opinions, quand on s'occupe simplement de voir un fait tel qu'il est, ce qu'il fait, nous voyons qu'il y a aux États-Unis un peuple spirituel et qu'il y a des masses, de très grandes masses de gens qui ont besoin, qui ne peuvent comprendre émotivement et mentalement que cet outil qui est la Bible. On ne peut pas leur enlever ceci. On ne peut pas enlever à un mormon sa chose, au témoin de Jéhovah son outil. On ne peut pas enlever à l'homme l'outil dont il a de besoin dans son expérience. Si l'homme évolue, parce que la vie se charge de tout. Si l'homme évolue et s'il est dans sa vie, dans sa destinée un jour, de rencontrer des hommes qui peuvent le faire aller un peu plus loin, cette destinée sera remplie et l'homme rencontrera ces hommes. Alors, il ne faut pas enlever à l'homme ce qu'il a, même si nous savons que ce qu'il a est un outil qui est temporaire et qui un jour sera compris dans un esprit beaucoup plus vaste. Parce que les hommes, vous ne pouvez pas comparer votre situation à vous aujourd'hui avec la situation d'un homme dans le monde qui n'a jamais eu contact avec des idées un peu plus marginales. Les hommes ont besoin de tout ce qu'ils ont et naturellement, s'ils sont peu près de l'intelligence pure et qu'ils sont très près de l'astral, d'un astral spirituel puissant, ils seront très attachés à ces outils et ces outils, nous ne pouvons pas leur enlever. Ce sont les forces de vie qui éventuellement leur permettra de rencontrer d'autres individus qui auront une sorte d'influence bénéfique chez eux, qui pourront leur montrer telle chose. Et s'ils ont la capacité d'aller plus loin, ils iront. Et s'ils n'ont pas la capacité, ils demeureront avec leurs outils, ils reviendront par incarnation et ils devront continuer leur évolution plus tard.
Le monde de l'astral se sert des religions.
Mais oui, effectivement, la religion pour le monde de l'astral, c'est sa force maîtresse. Regardez les projections astrales des saintes, les projections astrales des Christ qui pleurent et des vierges qui pleurent dans les différents pays. Mais où? Dans les pays sous-développés. Alors, la Vierge se présente à Mexico, elle se présente au Guatemala, elle se présente en Italie, elle se présente en Irlande. Elle ne se présente pas à New York. Elle ne se présente pas à Paris. Elle se présente là où il y a des gens qui peuvent bénéficier d'un soulagement astral et ça fait partie des activités de service du monde astral. Lorsque nous parlons du monde astral, il faut réaliser qu'il y a des activités positives dans le monde astral comme il y a des activités négatives dans le monde astral. Mais ce que l'homme comprendra un jour, c'est que lorsqu'il est dans l'intelligence, ce qui est positif et ce qui est négatif doit être synthétisé, contrôlé, neutralisé par une autre fonction de l'intelligence. Parce que c'est seulement l'intelligence qui est neutre de l'émotion qui peut se servir du positif et du négatif. Si l'homme n'est pas dans son intelligence, il est assujetti soit au positif ou au négatif à cause de son émotivité. Et c'est là l'ignorance. C'est là l'ignorance. L'ignorance se sert soit du positif ou soit du négatif. Lorsque l'homme est dans l'intelligence, il peut voir la valeur du positif, il peut voir la valeur du négatif sur le plan cosmique, mais lui n'en souffre pas et il n'en est pas rendu ignorant.
À la mort, l'âme va dans le monde de l'astral et l'esprit va dans un autre monde. Vous nous avez dit tantôt qu'il était étudié, on vérifiait, on prenait beaucoup de temps avant de le retourner. Il est pris en charge par des êtres d'intelligence pure. Cet esprit revient dans un corps. Vous dites, vous avez empêché votre petite fille de tomber dans le piège de l'astral. Peut-on dire qu'elle n'a pas d'âme?
Pardon?
Peut-on dire qu'elle n'a pas d'âme?
Qu'elle n'a pas d'âme? On peut dire qu'elle n'a presque pas d'âme. Elle n'a presque pas de mémoire d'âme. Parce que sa mémoire d'âme, elle est toujours sous le contrôle de son intelligence. Je vous donne un exemple. Elle va à l'école. Et un jour, la sœur, elle m'a dit que si on fait des choses qui ne sont pas bien, le petit Jésus pleure. Bon. Alors, j'ai dit, moi, je suis toujours neutre. Je prends jamais de position, même en public. Alors, j'ai dit, tu penses-tu que le petit Jésus, il pleure? Et elle me dit, non. J'ai dit, il pleure pas. Vous comprenez? Alors, c'est d'elle. Autrement dit, son intelligence repousse la mémoire d'âme. Elle repousse. Alors, elle est suffisamment habituée maintenant qu'elle va dire, bon, j'ai quelque chose à demander, bon. Et elle se ferme les yeux, elle demande, et elle a toujours ses réponses. Et je lui ai dit dernièrement, j'ai dit, tu n'as pas besoin de fermer tes yeux, tu peux parler les yeux ouverts. Alors, mais qu'elle est, quand elle aura 15 ans, même avant ça, quand elle aura 12 ans, mais quand elle aura 15 ans, 16 ans, 18 ans, cette petite fille, elle sera dans son intelligence, et elle ne sera pas affectée par l'astral, et elle ne sera pas liée à la mémoire d'âme, et automatiquement, le pouvoir de cette énergie va grandir, et grandir, et grandir, et grandir, et grandir, et grandir, et comme son mental et son émotionnel seront de plus en plus séparés, un jour, elle pourra vivre cette énergie sur tous ses plans, et elle vivra ce qu'elle doit vivre.
Quelle différence faites-vous entre un monde où il n'y aura plus d'émotion et un monde où il n'y aura plus d'amour? Parce qu'on dirait que l'émotion et l'amour est très lié.
Non, non. Il n'y a pas d'amour sur la Terre. Il y a le sentiment de l'amour. Le sentiment de l'amour est un sentiment astral, fait partie du monde de la mort, fait partie du monde de l'âme, il fait partie de la mémoire de l'âme, il fait partie de la conscience expérimentale de l'homme. L'homme connaîtra l'amour dans les terres. C'est lorsque l'homme sera capable d'aller dans les mondes parallèles qu'il connaîtra l'amour. Parce que l'amour, c'est un principe, l'intelligence, c'est un principe, et la volonté, c'est un principe. L'homme ne peut pas vivre d'amour sur la terre, il serait détruit. L'amour, c'est trop puissant. Mais il peut vivre une diminution, une dilution, une pollution de cet amour, et c'est la spiritualité, l'amour spirituel ou l'amour sentimental, qui est le bon aspect de cet amour, la qualité positive, subjective de cet amour. Mais l'homme ne vit pas sur la terre l'amour cosmique. Il vit l'amour qui est totalement polarisé, de sorte qu'un soir il aime sa femme, et le lendemain puis il veut la rentrer d'un mur, et un autre soir il l'aime, et un autre jour il veut la rentrer d'un mur. Ça c'est l'amour humain. Ça c'est le sentiment de l'amour. Et de temps en temps, pour l'aimer un petit peu plus, il rentre dans le mur, puis la minouche, puis là il rentre... C'est comme ça que ça marche, bon. Alors, au niveau de l'intelligence, c'est la même chose. L'homme a de l'intellect, il est évident que l'homme a de l'intellect, mais l'homme n'est pas dans son intelligence. Il a de l'intellect, il a un peu de cette énergie. Et au niveau de la volonté, c'est la même chose. L'homme n'a pas de volonté cosmique, il a une petite volonté. L'homme vit avec ceci.
Parce qu'on imagine des êtres qui n'ont plus d'émotion, n'auront plus de chaleur humaine, n'auront plus de communication.
Non. Ça, c'est une notion, c'est une nostalgie astrale. C'est une... L'homme... Écoutez, plus on se conscientise, plus on évolue, plus on est humain. C'est pas le contraire qui se produit. Moi, je suis un homme très chaleureux. Je suis sympathique, j'aime m'amuser. Je suis sympathique. Bon, ce qui se passe, c'est que plus on se conscientise, plus on devient mental, moins notre émotivité subjective, négative, trouble notre esprit.
Y a-t-il une... émotionnalité objective,
oui.
Positive?
Oui. Il y a une émotivité objective créative. Vous employez encore le terme positif. Positif, négatif, positif. Créative. Créative, c'est la synthèse. Il y a une émotivité. Je vous donne un exemple. Je suis allé à Dallas, Texas, il y a quelques années. Je suis entré dans un Wyatt Regency, un nouvel hôtel qu'on venait de construire. Et j'ai monté dans les élévateurs en plastique, c'est-à-dire en verre. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. L'architecture. Et à ce moment-là, je vibrais énormément et j'avais les larmes aux yeux. Et j'ai dit, pourquoi je pleure? Et on m'a répondu, pour que tu puisses apprécier ce que l'homme fait de beau. Et ensuite, ça a coupé, ça a arrêté. Alors, j'ai eu l'émotion, mais c'est créative. Ce n'est pas du sentimentalisme. Et alors, il y a une émotion objective. Il y a une mentalité objective. Il y a de la conscience objective. Mais lorsque l'homme est dans cette conscience objective, il n'est jamais coupé. Il n'est jamais coupé de l'intelligence pure. Il comprend son émotion. Il comprend sa mentalité. Il n'est pas affecté par l'astral.
Pourquoi les êtres de lumière ou le monde de l'intelligence, lorsqu'il renvoie l'esprit et l'âme, lorsqu'il envoie l'esprit sur la terre, sont obligés de lui associer un astral?
Parce que si l'homme n'avait pas d'astral, il n'y aurait pas de sens. Si vous n'aviez pas de corps astral, vous ne pourriez pas sentir ceci. C'est le corps astral qui permet de sentir ça. Le corps astral, c'est le corps des sens. C'est par les sens qu'on est... Le corps astral a une fonction très extraordinaire, mais c'est la pollution du corps astral qu'il faut faire attention. Le corps astral lui-même, c'est fantastique. Le corps mental, c'est fantastique. Le corps vital, c'est fantastique. Il y a d'autres corps que l'homme va développer. Mais c'est quand ils sont pollués, ces corps, que, à ce moment-là, la conscience humaine diminue.
Quelle est la caractéristique du corps éthérique?
La caractéristique du corps éthérique, chez l'homme en général, le corps éthérique est très très peu développé. Lorsqu'il commence à se conscientiser, le corps éthérique se développe parce que l'énergie électrifie le mental, l'émotionnel et le vital. Alors cette énergie a tendance à tout faire vibrer dans l'homme et à faire croître les plans. Alors le mental croît, l'astral se réajuste, le corps éthérique se développe. Et lorsque l'homme est très très près de la fusion, le corps éthérique devient très très lumineux, il devient moronciel, c'est-à-dire qu'il y a une relation, il y a une unité entre l'énergie et ce corps commence à devenir un transport pour l'homme. Parce que le corps vital, le double de l'homme, lorsque l'homme meurt, disons que c'est le double de l'homme, lorsque l'homme meurt, ce double, il disparaît. Il n'y a plus. Il retourne à l'énergie. Alors, pour que l'homme s'immortalise, il faut que l'énergie de l'intelligence développe un champ de force autour pour le protéger. Alors, lorsque l'homme décide de changer de plan, au lieu que ce corps-là disparaisse comme ça, il demeure parce qu'il est protégé par un champ de force. Et ceci, ce corps devient son véhicule, son transport, son mode de transport. Et il peut, avec ce corps, se transporter dans le cosmos.
Ce corps éthérique dont vous nous parlez, d'énergie électrique, est-ce qu'il est associé au système nerveux? Les chakras.
Ah oui, effectivement, il est associé au système nerveux. Très, très, très près. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui se conscientisent, les gens qui vivent la fusion de plus en plus s'aperçoivent qu'ils deviennent comme des cordes de violon. Ils sont très, très électriques. Il y a une sorte d'énergie qui entre. Et si ils sont suffisamment stables mentalement, émotivement, ils la supportent. Comme moi, je ne suis pas nerveux psychologiquement, mais je suis nerveux dans le sens que je vibre, je suis plein de vie. Alors, cette énergie fait partie du double.
La montée du Kundalini ou l'étude des chakras, est-ce que c'est associé au corps éthérique?
La montée du Kundalini fait partie des expertises ésotériques astrales de l'homme. Et ce n'est pas bon que l'homme cherche le pouvoir. Il faut que le pouvoir vienne à lui. Si l'homme cherche le pouvoir à cause de son ego, qui fait partie de l'évolution, qui fait partie encore de la mémoire d'âme, automatiquement, ce pouvoir va lui servir d'expérience, mais ce pouvoir ne sera jamais créatif. Il sera simplement pour lui. Et s'il va trop loin, si l'homme n'est pas suffisamment évolué, il peut devenir destructif. La magie noire, exemple. Mais lorsque l'homme est prêt, lorsque l'esprit est prêt, lorsque l'homme est évolué, qu'il revient sur une planète, que son temps est venu pour la fusion, l'énergie descend et l'homme commence à prendre conscience d'elle. Et l'homme, les pouvoirs dans l'homme se développent dans leur temps, dans le temps de l'intelligence, de sorte que lorsque l'homme est dans le pouvoir, lorsqu'il est dans l'énergie du pouvoir, ce n'est plus l'ego qui se sert du pouvoir, c'est l'intelligence à travers l'ego. L'ego devient un canal et il n'y a plus de possibilité sur la Terre de magie noire, il y a simplement possibilité sur la Terre d'activité créative.
Est-ce que de révéler déjà ce qui est dans le monde de la mort va déjà reculer les forces de pénétration du monde de l'astral?
Non, parce que moi, quand je parle, il y a un temps. Quand je dis quelque chose, il y a un temps. Et quand je le dis, c'est le temps. Et comme c'est le temps, ça passe. Alors le monde, il y a des choses que je ne dirai pas pour empêcher que certaines forces dans ces plans utilisent ce que je dis, mais il y a des choses que je dis parce que tout est enregistré dans ces mondes. Moi, lorsque j'explique le monde de la mort à des morts, les morts apprennent le monde de la mort. Et comme ils apprennent le monde de la mort, ils apprennent à comprendre leur situation et ça leur permet à eux de sortir plus rapidement de la prison du temps et de continuer à évoluer. Sans ça, ils peuvent demeurer là pendant très très longtemps, surtout s'ils sont bien.
Avez-vous même comme tâche de libérer les morts du monde de la mort?
Non. Ça fait partie de la parole. La parole, c'est un pouvoir. Alors, la parole est un pouvoir lorsqu'elle est parlée, engendre sur les plans astraux des vibrations, et les êtres qui sont sur les plans suffisamment évolués comprennent très bien ce que ces paroles veulent dire, ils réalisent très bien ce que ces paroles veulent dire, et un homme qui communiquerait avec eux recevrait de l'information venant d'eux vis-à-vis ces paroles, et cet homme verrait que ce que je dis, c'est comme ça.
Alors, graduellement, même le monde de l'astral va être dépollué.
Oui, le monde de l'astral va être dépollué et les esprits seront éventuellement libérés pour revenir. Les morts doivent se réincarner. Ils doivent revenir à la matière pour qu'il y ait fusion avec la matière, pour que la matière se spiritualise, autrement dit qu'elle monte en vibration. Alors, les morts doivent un jour revenir, mais il y a des morts qui sont extrêmement pénalisés dans leur expérience. Vous avez le cas de ce type en Angleterre, là, je ne me rappelle plus de son nom, qui reçoit des messages sur les murs, on écrit sur les murs, c'est réellement un phénomène de poltergeist. Et il reçoit des messages sur les murs, on peint sur ces murs, on salit ces murs, et le type qui communique avec lui ne veut pas croire qu'il est mort. Pour lui, c'est encore 1745, et il y a encore des charrettes dehors, l'avion pour lui, et il croit que Matthews lui ment quand il lui dit on a des avions qui font 1000 à l'heure, qu'on a des automobiles, qu'on peut aller de Londres à Paris en quelques temps. Il croit, il se fâche et il salit tous ses murs. Alors il y a des êtres dans le monde de la mort qui sont réellement enculés, c'est ça le mot?
Et la résurrection des corps à la fin des temps. Donc tous ces
la résurrection des corps à la fin des temps, faut le prendre. La résurrection des corps à la fin des temps veut dire qu'à la fin des temps, il y aura contact entre l'homme mortel et des forces cosmiques, et l'homme ne sera plus assujetti aux forces de l'astral, et automatiquement, il pourra maintenir son corps matériel en vie. Ça ne veut pas dire que les morts vont ressusciter. Les morts sont morts et vont rester comme ça. Ça veut dire que les hommes, il y aura des hommes sur la terre qui auront le pouvoir de transgresser les lois de la mort, qui ont toujours été connues pendant l'évolution, parce qu'ils feront partie d'une nouvelle race. Alors, pour eux, ce sera très facile de transgresser les morts, les lois de la mort, un peu comme Saint-Germain l'a fait. Le comte de Saint-Germain.
Et les morts resteront là où ils sont.
Mais oui, parce que les corps matériels n'ont plus de fonction, parce que déjà nous sommes dans un nouveau cycle d'évolution. Alors, une personne qui serait morte, ce n'est pas intelligent de mal d'interpréter les symboles bibliques, il faut les comprendre. Si une personne est morte en l'an 1500 et qu'elle revient en l'an 2000 et qu'elle se trouve dans une civilisation qui est totalement nouvelle, elle va capoter. Vous prenez un gars en prison, vous le foutez en prison pendant 40 années, vous lui demandez de sortir, il va prendre une ticket d'autobus, il veut rentrer, hein? Il ne veut pas voir, parce qu'il n'est pas habitué. C'est la même chose. Alors, ça c'est pour donner de l'espoir. Ça c'est encore le truc du monde astral. Ils sont au bout, eux autres. Ça, pour donner de l'espoir à l'humanité, l'homme a reçu de l'astral qu'à la fin des temps, les morts ressusciteraient. Ça donne de l'espoir. Tout le monde a l'impression que peut-être que moi j'ai une chance. Ça ne marche pas de même. Et c'est devenu le bâton fort d'une religion qui est très prominente dans le monde aujourd'hui. Non. La ressuscitation des corps, ça veut dire qu'il y aura fusion entre les hommes et la lumière, et ces hommes qui seront fusionnés automatiquement pourront transgresser les lois de la matière et automatiquement ne retourneront pas au monde de la mort parce que le corps éthérique aura développé un champ de force. Et ce champ de force étant développé, le corps éthérique sera automatiquement un corps moronciel, il sera un corps de lumière, il ne pourra pas être détruit. Et c'est ça la résurrection.
Merci Bernard de Montréal pour la première partie.